I think we'll do better than 2016. We're way ahead of where we were in 2016. And I've done things that nobody's ever done. We built the greatest economy in the world and we're building it rapidly again.
Donc ça, c'était le président Trump aujourd'hui, Raphaël, qui disait « Je pense qu'on va faire encore un meilleur score qu'en 2016. On sait que le scrutin est dans 15 jours. »
Oui, écoute, en langage politique, Pat, là, ça, on appelle ça du spin. C'est l'image qu'on veut projeter, mais qui n'est pas nécessairement la réalité. Et il y a une façon de le voir, c'est dans le comportement de notamment la campagne de Donald Trump. Je te parle de son directeur de campagne aujourd'hui. Le même type dont je te parlais la semaine dernière, là, qui, tu t'en rappelleras, aurait comparé la campagne de réélection de son boss à un avion qui était en train de s'écraser. Le même type a envoyé une lettre cet après-midi à la Commission sur les débats présidentiels. L'organisme, encore une fois, là, qui organise, qui finance ces débats-là. On rappelle que le prochain, le dernier débat, il est prévu pour ce jeudi soir. Et dans la lettre en question, envoyée aujourd'hui, le directeur de campagne de Trump dit que les sujets retenus pour le débat, ils ont déjà été débattus lors du premier affrontement entre les deux hommes, et il ajoute que c'est inacceptable, ça c'est le mot exact, là, qu'on puisse couper le micro au candidat pendant le débat, parce que ça c'est un des changements évidemment qu'on a effectué après l'espèce de fiasco du premier débat. Donc, écoute, pour à peu près n'importe qui revoit ça, qui voit ça, qui est capable de lire entre les lignes, ça ressemble à des excuses potentielles de un pour essayer de se retirer peut-être du débat, et surtout, ça ressemble à des excuses tout court pour la contre-performance du candidat.
Ben Raphaël, deux choses pour avoir lu la lettre de son chef de campagne. La première, c'est que ça ressemble aussi à toute la tentative de discréditer l'élection à l'avance. T'sais, si je perds, c'est parce que c'était arrangé contre moi. Puis deux, quand tu lis la lettre, là, qui est assez c'est sidérant, là, t'sais, on dirait que le chef de campagne ne s'adresse pas à la commission des débats présidentiels. On dirait qu'il s'adresse à son boss. C'est comme s'il voulait plaire à son boss. Le débat qui a été gagné, le premier débat qui a été gagné par M. Trump contre Biden et contre le modérateur. Il y a des phrases comme ça qui n'ont pas de bon sens dans une communication officielle, à moins que tu sois, tu sais, à moins que tu sois en psychose.
Ou que tu sois dans une république de bananes.
Oui.
Ou que tu sois Donald Trump. Tu sais, on dirait une lettre écrite par Donald Trump pour Donald Trump.
Oui.
Fait effectivement. Et je veux aussi qu'on fasse le lien avec ce dont je te parlais, une autre chose dont je te parlais vendredi, c'est-à-dire l'impact que cette campagne-là est en train d'avoir sur l'ensemble du Parti républicain. Je te parlais d'un sénateur républicain qui s'était lancé là, à la fin de la semaine dernière dans une espèce de tirade contre Donald Trump. Une des choses qu'il disait, dont j'ai pas eu le temps de te parler, c'était que Trump, en fait, était en train de pousser les États-Unis à la gauche. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'entraîner l'ensemble du Parti républicain à la défaite en novembre. Et je veux te donner un exemple. Je vais prendre une minute pour te donner un exemple hyper concret de ça qu'on a vu, en fait, pendant la fin de semaine, après ces propos-là. Trump s'en est pris à Susan Collins. C'est qui Susan Collins? Mais c'est la sénatrice républicaine représentant l'État le plus démocrate depuis le plus longtemps. Elle est là depuis 1996. Elle est élue, réélue, bon an, mal an.
Et elle est en difficulté.
Et elle est en sérieuse difficulté. Et comment est-ce qu'elle a fait pour se faire réélire depuis aussi longtemps que ça, même dans des super bonnes années électorales pour les démocrates, pour le parti adverse comme en 2008? Par exemple, Obama gagnait son État par à peu près 20 points quand elle était réélue par à peu près 20 points aussi au niveau du Sénat. Comment elle faisait? Ben, elle était capable de travailler des fois, imagine donc, avec des démocrates. Puis ça arrivait aussi, Pat, des fois que mais écoute, elle critiquait un président de son propre parti. Ça y est,
oui, puis Raphaël, il faut souligner une chose. Aux États-Unis, t'as beau être dans le même parti, il n'y a pas de discipline de parti à proprement parler comme ici. Tu peux critiquer le président de ton, même s'il est de ton parti.
Puis-je me permettre une petite correction? Tu pouvais
oui,
critiquer le président
sur papier,
de ton parti. Non, mais dans le sens qu'en vrai aussi, tu peux. Avant Donald Trump, tu pouvais. Avec Donald Trump, tu ne peux pas. Il n'accepte pas la critique, n'accepte pas qu'il y ait un seul républicain, une seule républicaine qui soit pas avec lui, toujours avec lui. Fait que là, il est sorti publiquement pour essayer de la détruire à 15 jours du vote. En fait, il est déjà en train de détruire la carrière de cette femme-là. Elle risque très sérieusement de perdre son siège et elle va devoir cette défaite-là à un homme plus qu'à n'importe qui d'autre, c'est Donald Trump. Et donc, en janvier prochain, si on a une nouvelle sénatrice démocrate du Maine, ben, ça va être Donald Trump en bonne partie qui va avoir été responsable de ça.
OK, parle-moi du sondeur qui avait vu venir la victoire de Donald Trump en 2016 et qui l'a dit qu'on sous-estime peut-être les chances, même si les sondages sont pas très bons pour lui.
Absolument. Écoute, c'est fascinant. J'avais tweeté sur ce type-là, sur sa petite ferme très peu connue qui s'appelle Trafalgar, qui avait montré à la fin de l'été là, que Trump était en train d'effectuer une remontée. Puis j'avais dit, tu sais, il faut prendre ça avec un grain de sel. Mais en même temps, écoute, c'était le seul type qui, à 4 ans, a vu juste en projetant la victoire de Trump dans plusieurs États. On le sait, là, il a créé une espèce de commotion mondiale. Et la semaine dernière, en fait, il a donné une entrevue, un podcast, honnêtement, là, fascinant, dans lequel il partageait sa vision des choses. Puis ce qu'il disait, c'est qu'il y avait un énorme biais de désirabilité sociale, ce qui est un phénomène réel, soit dit en passant. Là. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas toujours donner une réponse qui n'est pas, entre guillemets, politiquement correcte.
Donc, ça, les sondeurs appellent, puis ouf, tu vas pas le dire que tu votes pour Trump.
C'est ça. Et ce que ce type-là dit, c'est que, écoute, pensez-y une seconde. Là. Les gens mentent à leur médecin, ils mentent à leur prêtre. Pensez-vous vraiment qu'ils vont toujours dire la vérité à un sondeur qui les appelle? Et quand on sait comment c'est souvent politiquement incorrect, entre guillemets, de dire qu'on est un supporter de Donald Trump, ben ça peut sous-estimer, ça peut être lié à une sous-estimation du vote de Trump. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, c'est encore plus vrai dans le cas de Donald Trump parce que ses électeurs, non seulement sont pas toujours susceptibles de dire la vérité, mais sont statistiquement beaucoup moins susceptibles de même vouloir parler aux sondeurs en premier lieu. Fait qu'ils sont plus difficiles à aller chercher. Donc, lui persiste et signe, il dit que c'est comme en 2016 et que Donald Trump se dirige présentement vers une courte victoire. Écoute, ça vaut ce que ça vaut, on s'en parlera le 4 novembre. Il est dans un camp qui est très, très, très minoritaire, mais comme on le vend en 2016, c'est pas une hypothèse qui peut être complètement exclue.
Merci, Raph, on se reparle demain.
À demain.